Le titre de mon exposé est assez long, c'est presque la moitié de l'exposé lui-même. Le titre est le suivant, « Contexte intellectuel et vérité philosophique de la profession de foi du vicaire savoyard ». La profession de foi du vicaire savoyard est le texte de philosophie fondamentale le plus important que Rousseau ait écrit. Par ce terme un peu maladroit de philosophie fondamentale, je veux dire que dans la profession de foi, Rousseau s'applique à élaborer une théorie des facultés essentielles de l'esprit humain et une conception de la place de l'homme dans l'univers qui servent toutes les deux de fondement à l'examen de l'homme en société qui prédomine dans ses autres écrits. Dans le discours sur l'origine de l'inégalité, Rousseau a exploré comment les mobiles originaux d'amour de soi et de sympathie chez l'homme ont pu, grâce à sa qualité d'agent libre, qui lui permet d'acquiescer ou de résister aux impressions des sens, de réfléchir donc et de vouloir se perfectionner, comment ces mobiles ont pu donc céder à l'amour-propre, au désir de se distinguer des autres, ce qui conduit au surgissement des rapports d'inégalité dans la société. Et dans le contrat social, il s'est proposé de déterminer comment cette même qualité d'agent libre permet à l'homme de mettre fin à l'enfer qui s'est créé et d'échapper au rapport de dépendance personnelle en se donnant une loi de conduite, une loi impartiale de conduite qui respecte les personnes et les biens de chaque individu et qui transforme ainsi sa liberté naturelle en liberté morale. Mais comment l'esprit de l'homme est-il structuré pour qu'une telle liberté, à la fois source et solution des problèmes de la société humaine, soit possible? Et en raison de quelles facultés d'esprit peut l'homme être poussé à préférer la liberté morale aux attraits des rapports de dépendance personnelle lorsqu'ils paraissent à son avantage? Cette faculté, Rousseau l'appelle la conscience. Mais qu'est-ce que c'est exactement que la conscience? Et quelle place occupe-t-elle dans la structure de l'esprit humain? Ces questions ne concernent pas tant l'homme en société que la nature de l'homme en tant que telle, les facultés essentielles de son esprit qui expliquent les différentes modalités de la vie sociale. Il n'est donc pas accidentel que Rousseau les aborde dans l'Émile, son traité de l'éducation, et justement au cœur de cet ouvrage, dans le livre 4 consacré à la seconde naissance, où l'homme, dit Rousseau, naît véritablement à la vie et que rien d'humain n'est étranger à lui, c'est-à-dire où l'homme sort de l'enfance pour entrer en pleine possession de ses pouvoirs et commence à réfléchir sur lui-même et sur la place de l'homme dans le monde. Être au clair sur la nature de la liberté et de la conscience, du moins dans la mesure du possible, dont il s'agit de questions difficiles, et en nous appuyant sur ce que nous trouvons indispensable pour pouvoir vivre parmi tant de doutes concernant la condition humaine, devient une nécessité à ce moment pour le précepteur comme pour l'élève. On sait pourtant, depuis les travaux de Pierre-Maurice Masson au début du siècle dernier, que la profession de foi a été composée indépendamment de l'Émile, que Rousseau l'y a inséré seulement dans les dernières phases de la composition de ce dernier ouvrage, et qu'elle a même pris des mesures pour la faire publier séparément dans le cas où l'Émile serait supprimé. Rousseau travaillait sur ce texte bien avant d'avoir décidé de l'inclure dans l'Émile, je crois que c'est printemps 1759, du moins depuis 1758, puisque la première rédaction ne montre pas de signe de sa lecture de l'esprit d'Helvétius, qui était publié en 1758, si important d'ailleurs pour l'élaboration de ses notions de liberté et de conscience dans les versions ultérieures, et qui n'a lu à noter que dans l'hiver de cette année. 58. Pour toutes ces raisons, nous pouvons traiter la profession de foi comme un texte relativement autonome. Nous pouvons la considérer aussi comme l'expression de la pensée de Rousseau lui-même, qui est fait passer de longs morceaux des deux dernières de ses lettres morales écrites pour Madame Doutot en 1758. Rousseau a choisi de se cacher derrière le personnage du vicaire, en partie pour des motifs de prudence, à cause de la critique de la révélation développée à la fin du texte, et en partie pour souligner que les pensées exposées dans ce texte se laissent accepter indépendamment des controverses religieuses et métaphysiques, étant celles d'un homme qui n'est ni un puissant, ni un saint, ni surtout un savant. Dans sa profession de foi, le vicaire, c'est-à-dire Rousseau, s'emploie à convaincre son auditeur de trois dogmes d'une religion naturelle. Les trois dogmes sont, d'abord, une volonté meut l'univers et anime la nature. Deuxième, puisque l'univers est mu selon des lois, cette volonté est aussi une intelligence. Troisièmement, l'homme est libre dans ses actions et comme tel animé d'une substance immatérielle. Ces dogmes sont, dit-il, essentiels pour savoir comment il faut vivre et à la portée de tout un chacun qui veut suivre, dit-il, la lumière intérieure et adopter la règle que le vicaire s'est imposée à lui-même, qui est, je cite, « d'admettre pour évidente toutes celles des connaissances qui m'intéressent, auxquelles, dans la sincérité de mon cœur, je ne pourrai refuser mon consentement, pour vrai toutes celles qui me paraîtront avoir une liaison nécessaire avec ces premières, et de laisser toutes les autres dans l'incertitude. » Une telle règle et la situation de doute à laquelle elle est censée porter remède ne sont pas sans ressemblance avec le point de départ d'où Descartes a voulu construire sa philosophie première, comme le vicaire l'admet lui-même. Même si Descartes visait à fonder la connaissance, alors que Rousseau veut fonder la façon dont il faut vivre. En fait, les points communs entre le vicaire et Descartes ne sont pas, nous le verrons, limités à cela. Puisque le vicaire n'entend pas démontrer les trois propositions de sa religion naturelle par des arguments subtils et métaphysiques, mais veut plutôt les puiser dans ce que nous ne pouvons refuser d'admettre comme évident en consultant notre cœur, il s'appuie au fond sur un ensemble de vérités concernant notre propre être et possédant, à son avis, le genre d'évidence requis. Cet ensemble de vérités, où il s'agit justement de la liberté que nous ne pouvons manquer de nous attribuer et de la conscience dont nous ne pouvons nier la voie, constitue le noyau de ce que j'ai appelé la philosophie fondamentale de Rousseau. Et la notion de liberté, qui s'y trouve défendue, reprend, comme je vais l'expliquer, un élément central de la philosophie première de Descartes. Dans la suite, je me propose d'examiner ce que Rousseau, à travers la profession de foi du vicaire, nous dit de ces deux notions cardinales de liberté et de conscience. On verra que je vais procéder en traitant Rousseau comme s'il était un philosophe sérieux et systématique. C'est qu'il en est vraiment un. Cela veut dire, entre autres, que je n'hésiterai pas à dire où il a vu juste et aussi où il a fait des erreurs. Le vicaire aborde le sujet de la liberté au début de sa profession de foi et il retourne plus tard pour en approfondir sa discussion. La conscience ne vient qu'en un deuxième temps, où le vicaire passe de la connaissance des causes aux règles de la conduite qui en découlent. tout en suivant la même méthode qui est de ne pas s'appuyer sur des principes d'une haute philosophie, mais de regarder, comme il dit, ce qui est écrit au fond de mon cœur en caractère ineffaçable. Commençons donc avec la liberté. Lorsque le vicaire, pour expliquer de quel droit il peut s'appuyer ainsi sur la lumière intérieure, se pose la question « Mais qui suis-je ?», il répond par ce qu'il appelle une première vérité. Je la cite « J'existe et j'ai des sens par lesquels je suis affecté. » Cet énoncé est un peu curieux. Cette première vérité paraît en être deux, puisqu'elle conjugue deux propositions distinctes. J'existe et j'ai des sens par lesquels je suis affecté. Dans la mesure où le vicaire vient justement de comparer son entreprise à celle de Descartes, la combinaison de « j'existe » avec « j'ai des sens par lesquels je suis affecté » pourrait bien indiquer que tout en étant d'accord avec Descartes en ce qui concerne la certitude primordiale de notre propre existence, il refuse de le suivre en ce qui concerne l'existence d'idées innées. En effet, Rousseau est empiriste, à cet égard du moins, comme tous les grands philosophes français du XVIIIe siècle. Le vicaire le dit plus loin, « Exister pour nous, c'est sentir. Notre sensibilité est incontestablement antérieure à notre intelligence, je cite toujours, et nous avons eu des sentiments avant des idées. » Précisons dans une note qu'en fait nos idées ne diffèrent de nos sentiments qu'en ceci, qu'en rapportant nos perceptions à leurs objets, nous parlons d'idées, alors qu'en pensant plutôt à l'impression qu'elles font sous nous, nous parlons de sentiments. Pour Rousseau, toutes nos idées nous viennent par les sens. Et d'ordinaire, il utilise le terme « sensation » pour ce processus même, « sensation » au pluriel, pour les impressions ou perceptions qui en sont l'effet immédiat, et « sentiment » pour la façon dont nous ressentons nos perceptions. Mais si Rousseau est empiriste en ce sens, il rejette l'empirisme radical de ses contemporains tels que Condillac et Helvétius. C'est-à-dire, il rejette la notion selon laquelle les opérations et le développement de notre esprit s'expliquent entièrement par les processus de sensation. Dans son traité des sensations de 1754, Condillac a énoncé comme thèse principale, je cite, « C'est des sensations que naît tout le système de l'homme. » Par cela, Condillac voulait dire non seulement que toutes nos idées nous viennent d'une sensation, mais aussi que tout ce qu'elles deviennent ensuite dans notre pensée n'est que l'effet de la sensation. Dès qu'il y a comparaison, admet-il, je cite Condillac, il y a jugement. Mais lorsque nous comparons des sensations acquises et jugeons que les chiens aboient au lieu de parler, ce jugement n'est que le résultat causal, selon Condillac, d'avoir aperçu un chien après l'autre qui aboie et qui ne parle pas. Locke avait soutenu que nous avons deux sources de la connaissance, la sensation et la réflexion. Mais Condillac voulait radicaliser l'empirisme en faisant tout remonter à la sensibilité seule. Or, c'est justement cette réduction du jugement à la sensation que le vicaire s'empresse de condamner. Je le cite, « Apercevoir, c'est sentir. Comparer, c'est juger. » Pense peut-être au passage de Condillac. « Juger et sentir, insiste-t-il, ne sont pas la même chose. » En plus de la sensibilité, qui est essentiellement passive, gouverné causalement par l'action des objets sur mes sens, il y a en moi, dit le vicaire, une force active, par laquelle, et je cite, je réfléchis sur les objets de mes sensations pour formuler tel ou tel jugement à leur égard. à cause de la similitude de ses énoncés à certaines annotations que Rousseau a faites sur son exemplaire du livre d'Helvétius, de l'Esprit, dans l'hiver de 1758, il est clair que c'était surtout à Helvétius, défenseur d'un empirisme également réductiviste, qui pensait. Tout se réduit à sentir, annonce Helvétius au début de son livre. Voici le passage qui vient tout de suite après, dans le livre de Helvétius, que Rousseau a critiqué dans ses annotations. Je cite Helvétius, « Tout l'esprit consiste à comparer et nos sensations et nos idées, c'est-à-dire à voir les ressemblances et les différences. Alors, comme le jugement n'est que cette apercevance elle-même, il s'ensuit que toutes les opérations de l'esprit se réduisent à juger. La question renfermée dans ces bornes, j'examinerai maintenant si juger n'est pas sentir. Quand je juge la grandeur, la couleur des objets qu'on me présente, il est évident, c'est toujours Helvétius que je cite, il est évident que le jugement porté sur les différentes impressions que ces objets ont faites sur mes sens n'est proprement qu'une sensation. Que je puis dire également, je juge, je sens. Que de deux objets, l'un, que j'appelle toise, fait sur moi une impression différente de celle que j'appelle pied. Que la couleur que je nomme rouge agit sur mes yeux différemment de celle que je nomme jaune. Et j'en conclus qu'en pareil cas, juger n'est jamais que sentir. Rousseau a raison de détecter dans ce passage, comme il dit, un sophisme très important. C'est l'expression qu'il utilise dans les annotations qu'il a faites sur l'exemplaire, sur son exemplaire du livre de Helvétius. Sophisme dont l'origine est de ne pas reconnaître que tout jugement se distingue de la sensation par le fait d'avoir un rapport à celle-ci, à la sensation, qu'on peut bien, à l'instar de Rousseau, qualifier d'actif. Helvétius dit lui-même qu'un jugement porte sur les impressions que des objets ont faites sur nos sens. Or, ce porter sur est un rapport non causal, mais sémantique, consistant à dire de ces impressions et objets ceci ou cela, ce qui fait que le jugement est tout autre chose que les sensations sur lesquelles il porte. Et puisque le jugement consiste à affirmer quelques vérités présumées à propos de la façon dont ces impressions dépendent de leurs objets, affirmation qu'on pourrait aussi suspendre ou rejeter, le jugement constitue une prise de position à leur égard. Il est en ce sens quelque chose d'actif, et à ce titre, comme le vicaire l'explique plus loin, une expression de la liberté de notre volonté. Voilà le noyau de la critique bien justifié, que le vicaire adresse implicitement à Helvétius et à tout empirisme réducteur. Il y a plus. Le vicaire procède à ajouter que c'est seulement grâce au pouvoir essentiellement actif de juger que nous sommes en mesure de concevoir qu'il y a des faits qui existent indépendamment de nous. Je cite le vicaire. Selon moi, la faculté distinctive de l'être actif ou intelligent est de pouvoir donner un sens à ce mot « est ». Je cherche en vain dans l'être purement sensitive cette force intelligente qui superpose et puis qui prononce. Cet être passif sentira chaque objet séparément, mais n'ayant aucune force pour les replier l'un sur l'autre, il ne les comparera jamais, il ne les jugera point. La portée de cette remarque va en fait plus loin. Le vicaire dit, je cite encore, « Cet être passif sentira chaque objet séparément. » Mais à vrai dire, il aurait dû dire qu'un tel être sentirait chaque sensation séparément. Et n'arriverait jamais en tant que tel à savoir ce que c'est qu'un objet. Car si, selon le genre d'empirisme que Rousseau accepte, en cela en compagnie avec ses adversaires, ce qui nous est donné d'abord ne consiste qu'en des impressions des sens. Il faut juger pour les comparer et conclure qu'elles sont produites en nous par un seul et même objet. Lorsque le vicaire déclare que le pouvoir actif du jugement est nécessaire pour donner un sens à ce mot « et », il pense à « les » de la prédication. Mais étant donné ces présupposés, il ne conçoit pas que nous ayons une perception directe des objets, mais selon des sensations, il aurait dû dire la même chose de « les » de l'existence, appliqué au cas des objets causalement responsables de nos sensations. Il croit avoir réglé la question de l'existence d'objets en général juste avant le passage cité, là où il dit « Mes sensations se passent en moi puisqu'elles me font sentir mon existence, mais leur cause m'est étrangère puisqu'elles m'affectent malgré que j'en ai et qu'il ne dépend pas de moi de les produire ni de les anéantir. Ainsi, non seulement j'existe, mais il existe d'autres êtres, savoir les objets de mes sensations. » Il faut pourtant noter que cette conclusion est elle-même un jugement porté de façon active sur les données des sens. Et puis, juger qu'il existe des objets en général n'est évidemment pas la même chose que de juger que tel ou tel objet existe. Je ne peux pas moi-même défaire de l'impression qu'en attribuant au jugement, comme il dit, la faculté distinctive de pouvoir donner un sens à ce mot « et », le vicaire Rousseau pense non seulement aux énoncés prédicatifs « A » est un « F », bien que tous ces exemples relèvent de ce genre, mais aussi, vu l'absoluité du mot « et », aux énoncés existentiels. Il existe un objet A. Ainsi interprété, l'argument du vicaire rejoint celui de Descartes concernant le morceau de cire dans la deuxième méditation. Là, pour répondre à l'objection que les choses corporelles et soi-disant sensibles sont mieux connues que ce « je » dont il prétend avoir prouvé l'existence, Descartes montre qu'on ne saurait attribuer une succession de qualités sensibles à quelque chose de subsistant à travers ces changements, c'est-à-dire qu'on ne saurait même croire qu'on a affaire à un objet qui existe réellement, sans réunir ces différentes perceptions par un acte de l'esprit, inspectio mentis, qui est un exercice de notre faculté du jugement, comme il dit, facultas judicandi, et qu'il fait remonter, lui aussi, dans la quatrième méditation, à notre liberté de volonté. Dans la mesure où le vicaire, ayant comparé sa situation intellectuelle à celle de Descartes, entreprend de défendre, contre les empiristes radicaux de son époque, un dualisme des facultés, sensibilité passive, jugement actif, remarquablement similaire à celui de Descartes, que ces empiristes s'étaient justement attachés à détruire. Il est difficile de croire que Rousseau n'avait pas à l'esprit ce passage de la deuxième méditation en écrivant la profession de foi. De toute façon, il a vu la même vérité que Descartes. De ce dualisme des facultés, de sensations et du jugement, le vicaire tire, non sans ressembler à Descartes à cet égard aussi, un dualisme des substances, lequel trouve expression dans le troisième dogme de sa religion naturelle. Je le cite encore. « L'homme est donc libre dans ses actions et comme tel animé d'une substance immatérielle. » Là, le vicaire va, à mon sens, trop loin dans sa reprise du cartésianisme. Au lieu de le suivre dans ce chemin, je vais examiner de plus près ce qui dit la nature de la liberté en tant que telle. Notre jugement n'est pas libre, selon le vicaire, au sens où nous pouvons donner notre assentiment à n'importe quoi, de façon absolument arbitraire. de sa discussion plus approfondie de la liberté, plus loin dans la profession de foi, il apparaît qu'au fond, selon le vicaire, notre jugement est libre dans la mesure où son exercice consiste à suivre les raisons que nous voyons de penser ou d'agir de telle ou telle façon. En cela, le vicaire, Rousseau, adopte encore une fois une position similaire à celle de Descartes, qui dans la quatrième méditation, comme dans sa correspondance ultérieure, a soutenu que la liberté est notre capacité de régler notre pensée et notre conduite sur les raisons, de sorte que nos choix sont d'autant plus libres qu'ils reposent sur des raisons plus convaincantes. Après tout, l'antithèse de la liberté est la conclusion qui, elle, consiste à être poussée par des causes à faire ceci ou cela indépendamment de ce que nous voyons de bonnes raisons de faire, c'est-à-dire par des causes étrangères à notre nature rationnelle. Cette conception de la liberté, qui me paraît d'ailleurs essentiellement correcte, le vicaire l'épouse aussi, avec, je soupçonne, le texte de Descartes dans la mémoire, dont il rapporte comme lui le jugement à la volonté. Et puisque son intérêt porte surtout sur les questions de conduite, il la formule en des termes correspondants. Je cite le vicaire. « Ma liberté consiste en cela même que je ne puis vouloir que ce qui m'est convenable ou que j'estime tel sans que rien d'étranger à moi me détermine. » La formulation est un peu étrange. « Ce que je vois une raison de faire, et à ce titre, ne peut pas ne pas vouloir et dit être ce qui m'est convenable ou que j'estime tel. » En quel sens une raison de faire quelque action doit-elle, selon le vicaire, être de nature à me rendre cette action convenable? Pourquoi, plus précisément, l'action doit-elle non simplement être convenable, mais être à moi convenable? La réponse se trouve dans la façon dont il précise, à deux reprises, le vicaire, ce que je ne peux pas ne pas vouloir, une fois juste avant la formulation précédente, et une seconde fois plus loin dans son discours. Le vicaire dit, « Sans doute, je ne suis pas libre de ne pas vouloir mon propre bien. » Et, deuxième fois, « Sans doute, nul n'agit que pour son bien. » Rousseau serait donc de l'avis que toute raison d'agir, pour qu'elle puisse avoir un effet sur ma volonté, doit montrer comment l'action en question contribue à mon propre bien. La doctrine est loin d'être inouïe dans la tradition philosophique, mais elle paraît difficilement conciliable avec une reconnaissance réelle des demandes de la morale. Le point de vue moral ne consiste-t-il pas à voir dans le bien d'un autre une raison d'agir aussi immédiate que nous voyons naturellement dans le nôtre, à aimer, comme dit la Bible, par exemple, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Rousseau paraît sensible au problème. En effet, il réprouve les tentatives de bien des philosophes modernes pour construire une justification, en réalité un simulacre, du point de vue moral, en indiquant des raisons d'utilité personnelle de nous intéresser au bien des autres. Le livre d'Helvétius, de l'esprit, auquel il pense souvent en écrivant la profession de foi, en est un exemple parfait, et il n'est pas difficile de comprendre comment l'empirisme radical exposé dans le livre d'Helvétius, a pu favoriser l'élaboration d'une telle conception de la morale. Si, comme déclare Helvétius, tout se réduit à sentir, et si au fond de notre sensibilité, je cite encore Helvétius, le désir du plaisir est le principe de toutes nos pensées, de toutes nos actions, il s'ensuit que, citation encore d'Helvétius, si l'univers physique est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt, et, conclut Helvétius, on ne peut rendre les hommes vertueux qu'en unissant l'intérêt personnel à l'intérêt général, surtout aux moyens. de la législation. En revanche, si nous avons un pouvoir actif de jugement, comme dit Rousseau, nous permettant d'évaluer le bien fondé de ce qui nous arrive par les sens, il semblerait que nous pouvons décider de résister aux attraits du plus grand plaisir, de ne pas poursuivre notre propre intérêt, et même de nous occuper de l'intérêt d'un autre simplement parce que cela lui ferait du bien. Au compte de Vicaire, Rousseau lui fait certainement décrier plusieurs fois, dans la deuxième partie de son discours, consacrée aux questions de conduite, la philosophie morale d'Helvétius. Je cite quelques-unes de ses phrases. « Tout nous est indifférent, disent-ils, c'est-à-dire Helvétius, hors notre intérêt. Et chacun, dit-on, c'est-à-dire dit Helvétius, chacun concourt au bien public pour son intérêt. » Ce deuxième genre de réductionnisme chez Helvétius n'est pourtant pas rejeté par le vicaire au nom de la conviction que nous avons la capacité, grâce au principe actif de notre être, de regarder au-delà de notre propre bien et de nous soucier du bien d'autrui pour lui-même. Au contraire, Rousseau est persuadé que toutes nos actions, bonnes ou méchantes, sont en dernière analyse motivées par un souci de notre propre bonheur, qu'il s'agisse d'un vrai contentement de soi, l'amour de soi, ou de la recherche de la bonne opinion d'autrui, l'amour propre. Ainsi, distingue-t-il, dans une lettre écrite à la même époque que la profession de foi, c'est une lettre à M. d'Offreville du 4 octobre 1761. Dans cette lettre à M. d'Offreville, il distingue deux formes de notre bien personnel, l'une matérielle et l'autre plus élevée, spirituelle, et il fonde l'action vertueuse sur la recherche de la dernière. Je cite le passage clé de la lettre. Jusqu'aux actes de vertu les plus sublimes, jusqu'aux œuvres de charité les plus pures, chacun rapporte tout à soi. Mais il faut expliquer ce mot d'intérêt. Il y a un intérêt sensuel et palpable qui se rapporte uniquement à notre bien-être matériel. Il y a un autre intérêt qui ne tient point aux avantages de la société, qui n'est relatif qu'à nous-mêmes, au bien de notre âme, à notre bien-être absolu, et que pour cela j'appelle intérêt spirituel ou moral. C'est cette doctrine qui explique le refrain du vicaire, sans doute nul n'agit que pour son bien, comme aussi l'énoncé sommaire de sa conception de liberté, où il dit, le vicaire, « La suprême jouissance est dans le contentement de soi, c'est pour mériter ce contentement que nous sommes placés sur la terre et doués de la liberté. » Rousseau soutient donc que notre liberté de volonté ne s'étend pas jusqu'à la reconnaissance de raisons impersonnelles d'agir en faveur du bien d'autrui. Toute raison que je peux voir de faire du bien à un autre doit renvoyer, selon lui, à mon propre bien comme à son fondement. Cette conception restrictive est injustifiée. Si nous pouvons évidemment voir des raisons impersonnelles de croire ceci ou cela, sans consulter notre propre bien-être, pourquoi ne pouvons-nous pas voir des raisons impersonnelles d'agir de telle ou telle façon à l'égard d'autrui? Cette conception ne constitue pas non plus, la conception de Rousseau, ne constitue pas non plus de réponse adéquate à l'instrumentalisme réducteur d'Helvétius. L'homme qui aide un autre en pensant à sa propre vertu et au bien spirituel qu'il peut se procurer en agissant vertueusement, n'est tout simplement pas un homme vertueux, qui lui ne penserait qu'à l'autre dans le besoin, mais plutôt un égoïste soucieux d'impressionner d'autres individus réels ou imaginaires par sa vertu présumée, on est tenté de dire, en raison justement de la sorte d'amour propre que Rousseau déteste. Et finalement, le recours à cette conception du vicaire est d'autant plus surprenant que le vicaire se mette aussitôt après à chanter les louanges de la conscience. Conscience, conscience, instinct divin, immortel et céleste voix. On aurait cru que la conscience nous dit que nous ne sommes qu'un parmi tant d'autres, que nous ne devrions pas toujours mettre notre bien-être au centre de nos réflexions, et qu'en certaines circonstances, le bien d'autrui l'emporte de loin sur notre propre bien, matériel ou spirituel. En fait, la doctrine même de la conscience qu'expose le vicaire est autrement prometteuse que cette conception erronée de nos raisons d'action possibles. Je vais conclure par expliquer ce qui en constitue l'attrait, c'est-à-dire l'attrait de la doctrine de la conscience chez le vicaire. À cause de certaines formulations du vicaire, on pourrait croire que selon lui, la conscience serait quelque faculté infaillible, donc foncièrement mystérieuse, pour déterminer ce qui est moralement bon ou mauvais. Je cite, « Le meilleur des casuistes est la conscience, nous dit-il au début de sa discussion de la notion, et ce n'est que quand on marchande avec elle qu'on a recours aux subtilités de raisonnement. » Ce n'est pourtant pas là sa position véritable. Tout en tensant Montaigne parmi tant d'autres, d'avoir suggéré que « conscience » n'est qu'un autre nom pour la coutume, il ne suppose pas que la fonction de la conscience est de saisir les principes universels du bien et du mal ou nos obligations spécifiques dans des situations particulières. Au contraire, le vicaire indique clairement que c'est par la raison, non par la conscience, que nous connaissons le bien et que le rôle de la conscience consiste à aimer, son mot à lui, aimer le bien moral une fois connu, c'est-à-dire à le préférer à d'autres possibilités d'action attrayante. Dieu, demandait-il, ne m'a-t-il pas donné la conscience pour aimer le bien, la raison pour le connaître, la liberté pour le choisir? Le sens de ce propos est que nous pouvons savoir ce que nous avons dans une situation donnée, raison de faire du point de vue moral, sans être pour autant incité à le faire puisqu'il nous reste la question pourquoi faire ce que la morale exige de nous. Le rôle de la conscience est de répondre à cette question. Connaître le bien, ce n'est pas l'aimer, dit-il, mais sitôt que sa raison le lui fait connaître, sa conscience le porte à l'aimer. Comment la conscience est-elle censée y répondre? Non pas, insiste le vicaire, en indiquant des raisons de préférer l'action morale aux autres possibilités d'action. Si la conscience procédait ainsi, elle serait la source d'une classe spéciale de jugement. Jugement non sur les raisons morales elles-mêmes, mais sur les raisons de suivre ces raisons. Mais, nous dit le vicaire, les actes de la conscience ne sont pas des jugements, je cite, mais des sentiments. Cela revient à dire qu'il n'y a pas d'argument pour prouver, selon le vicaire, que le bien moral l'emporte sur d'autres considérations. Il faut ressentir, pas un sentiment, ressentir directement l'autorité supérieure de la morale, si tant est que nous allons l'apercevoir. C'est ça le sens de la phrase célèbre du vicaire, « La voix de la conscience dépose pour elle-même ». Cette doctrine me paraît appartenir aux contributions les plus importantes de Rousseau à la philosophie morale. Il est à juste titre convaincu que malgré les espoirs de tant de philosophes depuis Platon, il n'y a pas d'argument valable qui, prenant son point de départ dans un ensemble d'intérêts censés être nôtres indépendamment de toute allégeance à la morale, peut nous montrer que nous avons raison de nous consacrer au bien moral. La morale parle d'elle-même. Je crois en plus que cette intuition ne peut que renforcer ma critique du présupposé douteux de Rousseau lui-même, sans lequel toute raison d'agir, même de caractère moral, doit renvoyer à notre propre bien. Si l'adoption du point de vue moral n'admet pas de justification externe, l'idée que l'action morale doit elle aussi avoir sa source dans notre souci de soi perd un de ses appuis principaux. Merci.